jusqu'à 14h. Vous écoutez Vice et Versa.
Vice et Versa.
Avec Judith Lucier et Sylvain Lévesque au réseau Cogeco.
Bon dimanche, bon début d'après-midi. Merci d'être à Vice et Versa. Sylvain Lévesque en compagnie de Judith Lucier pour notre troisième heure d'émission. Et ça fait réagir. Merci de vos courriels, merci de vos appels. Mais sur la question de Netflix, c'est certain qu'on aura la chance d'en redébattre. Maintenant, on va passer sur un autre sujet. Un sujet, ma foi, qui me fait bien rire parce que j'ai écouté le film à l'époque, très intéressant. Tu te rappelles de Tanguy, Judith?
Qui reflétait un phénomène de société de plus en plus répandu, oui.
Qui est pas rare. Selon là, une étude, un sondage léger, 51 % des parents avec des enfants majeurs supportent toujours leur enfant financièrement. Mm-hmm. La question qu'on pose aux gens, est-ce que vos enfants sont indépendants de vous? Est-ce que vous continuez à payer pour eux? À quel âge on devrait quitter la maison?
Couper les vivres.
Oui, à
toi,
quel âge?
Toi, Sylvain, à quel âge t'as quitté le foyer familial?
Je vais dire officieusement, parce que j'avais un certain lien encore avec mes parents, là. C'est à la fin de mes 17 ans. À 18 ans, j'ai quitté, je suis parti à l'université. Moi, j'étais de la Côte-Nord, de Baie-Comeau. Je suis parti pour Ottawa. Donc, je suis allé vivre en appartement et je revenais l'été. J'avais un travail d'été et par la suite, là, mes parents me finançaient pas vraiment. Moi, c'était des prêts et bourses. Mm-hmm. C'était mon travail. Mes parents me donnaient un petit montant, là, très, très, très petit. Je peux pas dire qu'ils me faisaient vivre. Donc, je suis devenu autonome et dès que j'ai terminé mes études, je suis entré sur le marché du travail et je n'étais plus chez mes parents. Moi, dans ma tête à moi, mon âge officieuse de départ, c'est 17 ans et 4/5e.
OK. Moi, j'ai été plus tardive. Je suis partie à 21 ans, mais il faut dire que moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis une vraie pure laine montréalaise et j'avais pas vraiment d'intérêt de quitter la maison. J'étais au métro Henri Bourassa, je me rendais au cégep en métro ou en vélo. Même à l'université, j'ai commencé mon parcours universitaire chez mes parents. À 21 ans, j'ai décidé d'aller en appartement.
Toi, dans ta tête, là, si demain matin, tu as des enfants, là, à quel âge que tu dis OK, c'est bye-bye, là. Moi, un de mes amis, il m'a toujours dit à 18 ans, il avait imposé à ses enfants s'il n'était pas aux études. Si tu n'es plus aux études, je vais te demander de me payer loyer dans la maison. Parce que lui, son expression, c'est la misère, ça se partage.
Ben, je suis assez d'accord avec la question des études. Si on continue, si les enfants continuent les études, c'est une bonne façon de les soutenir. Ça varie évidemment selon les moyens financiers des parents. Il y a des parents pour qui c'est plus difficile de garder les enfants à la maison. Et cette semaine, notre collègue Pierre-Yves McSween en a discuté avec Bernard Drainville. Il disait qu'une raison pour laquelle les enfants dépendent de plus en plus de leurs parents, c'est en raison du faible taux d'intérêt des prêts. On écoute ça.
C'est la grosse clientèle cible qui consomme, tu comprends? Pas des bateaux, non, c'est des restaurants, des voyages, beaucoup. Donc, tout ça ensemble, et l'intérêt de vouloir être quelqu'un puis d'avoir du plaisir comme tout le monde fait en sorte que... Tu sais, si on sort un vendredi soir à Montréal...
C'est pas la même chose, Pierre-Yves, là. Moi d'encourager quelqu'un, de donner de l'argent à mon gars ou à ma fille qui s'achète une maison, c'est une chose. De payer ses dettes ou de payer des factures constamment parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens... parce qu'elle sort, parce qu'elle voyage, là, c'est plus la même affaire, c'est plus un actif, là. Tu y payes un train de vie qu'elle n'est pas capable de se payer.
Ça m'a surpris d'entendre, j'ai fait des petites recherches, Judith, une étude de Financial Standard Planning and Council disent que 65 % des gens ont déjà aidé leur progéniture à s'acheter une maison. C'est pas mon cas, je sais pas. Ça me surprend comme statistique qu'autant de gens sont prêts à aider, là.
Bien, je pense que de plus en plus, on réalise que une bonne façon de partir dans la vie, c'est d'avoir des bonnes assises financières. Puis l'investissement immobilier, c'est sûr que c'est une façon d'assurer sa sécurité financière.
C'est vrai.
C'est sûr qu'il y a plein de facteurs là, qui entrent en ligne de compte, mais en ce moment, avec les taux d'intérêt assez bas qu'on a, même si on a augmenté un peu récemment, on n'est pas dans les deux chiffres qu'on avait dans les années 80. C'est un bon investissement, puis je pense que pour plusieurs parents, ils ont l'impression là, de donner un coup de main à leur enfant puis de bien les ancrer. Puis il y a beaucoup de parents aussi qui décident de donner leur héritage avant de mourir. Mais ça, je trouve ça très intéressant parce que l'héritage, là, traditionnellement, on disait, bon, c'est ce qu'on va donner, ce qu'on va léguer à nos enfants quand on va décéder pour pas les laisser dans l'indigence. Mais il y a beaucoup de parents, bon, les boomers, on dit souvent qu'ils l'ont eu plus facile que nous financièrement. Ils ont eu toutes sortes de programmes, facilité à l'emploi, les maisons étaient pas chères. Donc, ils arrivent à la retraite avec des surplus financiers, sont confortables. Mm-hmm. Et là, ils se disent, ben, je vais pas attendre de mourir pour que mes enfants puissent en profiter. Je vais les aider financièrement, puis je vais les voir s'épanouir grâce à cet argent-là.
Oui, c'est intéressant. On reçoit d'ailleurs des courriels. Vous pouvez nous écrire à viceversa@cogecomedia.com. On est toujours intéressé à vous lire. Vous pouvez nous appeler pour donner votre commentaire 790-9850, 1-866-790-9850. Et Martin, d'ailleurs, nous écrit, quand on y regarde de plus près, on constate que les jeunes travailleurs qui cotisent à la Régie des rentes du Québec, à plus de 10% font vivre les boomers qui n'ont pas payé leur juste part avec leur petit 3%. Lâchez-moi les Tanguy. Lui, il en fait une guerre générationnelle, là, Martin.
Ben moi aussi un peu, parce que c'est ça, on peut se battre à quelle génération a eu le plus d'aide financière. Nous, on dit que la génération X, on est la première génération à être plus pauvre que... Allons être plus pauvres que nos parents. Mm-hmm. Donc, c'est
on n'avait pas accès au travail.
Ben ça, c'est la génération X. Moi, j'ai dit la génération X. Moi, j'appartiens plutôt à la génération Y.
T'es une X-lénio qu'on appelle.
Je suis vraiment Y.
T'es vraiment Y?
Je suis vraiment Y, milléniale. D'ailleurs, parmi les milléniaux qui nous écoutent, ben il y a notre réalisatrice, Valérie Beaudoin,
oui,
qui dit « Ma mère a mis de l'argent de côté depuis ma naissance pour mes études, mais comme elle pouvait les payer directement, cet argent m'est revenu pour mon premier cash down de maison. » C'est une excellente idée, d'autant plus qu'en payant les études, elle devait avoir un retour d'impôt. Donc, c'est une bonne façon de procéder.
Chose certaine, la question qu'on vous demande ce midi, c'est à quel âge avez-vous quitté la maison? À quel âge on devrait pousser dehors le jeune là, du nid? C'est bien beau rester, puis il y en a, là, Pierre-Yves McSween l'a dit avec Bernard Drainville, il y en a qui se payent des restaurants, des voyages, ça sort... Plus aux études, nécessairement.
Est-ce que c'est rendre service aussi aux jeunes adultes de les soutenir, d'être des béquilles financières pour eux? On a Marc de Trois-Rivières qui est au bout du fil. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc?
Bien, premièrement, moi, je suis parti de chez moi. J'avais environ 17 ans, si je me rappelle bien. J'avais un emploi. J'avais quitté l'école sans avoir fini mon diplôme d'études secondaires. Et j'ai dû retourner à l'école par la suite. Moi et ma conjointe, on a 3 enfants. Et premièrement, on faisait nos planifications financières pour les enfants plus tard. On en a une maintenant qui rentre au secondaire. On en a un qui finit son primaire. Et on a un petit bébé de 7 mois. Puis on en a parlé. On s'est mis des règles. La première règle, c'est le respect. Tant qu'ils vont être respectueux, ils vont être bienvenus dans la maison.
C'est la base.
Ensuite de ça, tant qu'ils vont étudier et faire une alternance travail-études pour subvenir au minimum à leurs besoins... Nous, on a les moyens financiers de les garder à la maison et de leur fournir un véhicule. Parce qu'on veut pas qu'ils s'endettent ou qu'ils travaillent pour nuire à leurs études pour se payer des moyens de déplacement. Fait que c'est les conditions qu'on s'est mises. Fait qu'on économise en fonction de ça pour les trois.
On vous souhaite pas que vos enfants soient irrespectueux et qu'ils quittent l'école, mais ça vous reviendrait moins cher. Donc
mais Marc, j'ai une question pour vous. Admettons que vos enfants décident de quitter l'école et ils sont majeurs. Comment vous réagiriez à cette situation-là?
À partir de ce moment-là, tu as tant de mois pour te trouver un emploi, un appartement, et tu dois vivre de tes propres ailes.
C'est aussi raide que
ça. Mais c'est une condition.
Non, mais parce qu'à un moment donné, sinon, ils vont coller, puis ils n'apprendront pas de la vie. Mm-hmm. Moi, j'ai réussi en affaires. J'ai quitté jeune, j'ai pas étudié. J'ai appris dans des modèles alternatifs de
vie. Êtes débrouillé.
Je me suis débrouillé, puis aujourd'hui, l'indépendant financier, moi et ma conjointe, on a une très belle vie. Maintenant, ce que moi, je lui dis à ma conjointe, on doit faciliter le passage de nos enfants dans les études, quand même leur garder une notion de travail pour qu'ils connaissent la valeur de l'argent, mais la journée où que mon enfant décide que lui prend un moyen alternatif, tout comme moi j'ai fait, là, c'est plus dur, mais il va falloir qu'il fasse la réalité de cette vie-là aussi et qu'il en prenne conscience.
Mais merci.
Non, je ne l'aiderai jamais.
Mais vous avez raison. Merci, Marc, d'avoir appelé.
Intéressant.
C'est un fait. Est-ce qu'on rend service à nos enfants en les soutenant financièrement? Puis, à un moment donné, il faut développer l'autonomie aussi. On a Jacques de Laval qui est au bout du fil. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? Est-ce qu'on rend service à nos adultes en les soutenant financièrement?
on leur rend service. Écoutez, on essaie de leur donner ce que peut-être nous, on n'a pas eu. Sauf qu'il y a un autre facteur aussi, c'est qu'on ne veut pas qu'ils reviennent à la maison. Donc, on aime peut-être mieux leur aider à ce moment-là.
Oui.
Donc, pas les avoir chez nous. Mais par contre, non, écoutez, c'est sûr qu'il faut aider nos enfants quand on peut. De toute façon, l'argent qu'on ramasse, c'est pour qui? C'est pour eux autres. C'est pas pour
nous. Vous, Jacques, là, à l'époque, à quel moment vous aviez quitté le nid familial?
Je me suis marié à 20 ans et je quittais le nid familial à 20 ans.
Donc, c'est le mariage qui vous a éjecté de la résidence de la famille.
Oui, j'étais trop bien chez nous.
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir appelé.
C'est intéressant.
On a José de Québec. Vous, José, d'après vous, est-ce qu'on doit garder les enfants à la maison le plus longtemps possible?
Moi, j'ai un fils de 25 ans qui habite encore à la maison.
Un vrai Tanguy.
Oui, mais oui et non, je dirais, parce que je ne le supporte pas financièrement. Il paye une pension pour la partie loyer. Pour la partie dépenses communes, ben, je le paierais de toute façon. Je parle du corps, du téléphone et ces choses-là. Il paye son propre cellulaire, paye ses vêtements, paye ses choses. Terminé ses études, il est en recherche d'emploi, il travaille, mais il travaille pas dans son métier. Par contre, je dirais, moi, je suis monoparentale depuis l'âge d'un an et demi. Et je me suis toujours dit que je voulais qu'il parte sur le bon pied. Donc, je lui donne la chance de se mettre de l'argent de côté pour que le jour où il partira, ben, il pourra partir au moins correctement. Et puis, il ne reviendra pas.
José, est-ce que vous allez attendre qu'il puisse payer sa maison comptant, coudonc?
Non, mais je vous dirais qu'on a quand même une très belle relation.
Ben c'est ça.
On est plus des colocs qu'une mère et un fils.
Ben c'est ça, parce que s'il paye un loyer, visiblement, c'est parce qu'il aime être avec vous. Sinon, il irait payer un loyer ailleurs. C'est peut-être moins cher avec vous, mais ça veut dire...
Mais je dirais qu'on se voit tellement peu souvent, compte tenu de mon travail qui me prend beaucoup de temps, ma vie privée aussi, et la sienne. Donc, c'est pratiquement qu'on se voit juste de temps en temps pour souper. Donc, moi, je me suis toujours dit, à quoi ça sert de payer deux logements si on n'est pas dedans ni un ni l'autre à temps plein? Donc, on partage les lieux et quand on se voit, ben, on est content, on soupe ensemble, on a une belle relation, on communique ensemble. Mais après ça, on se voit pas. Les fins de semaine, on se voit pas. Donc, c'est un peu une économie des deux côtés. Puis, moi, je pense que j'en ai rien compte. Donc, c'est ma part un peu de l'aider à prendre son envol à un moment donné puis de pas avoir de problèmes financiers comme certains s'endettent énormément.
Merci beaucoup, José, d'avoir appelé. On va devoir faire une courte pause, puis on va revenir avec ce sujet-là après. Est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer? En fait, est-ce que vos enfants sont indépendants ou est-ce qu'ils ont encore besoin de votre aide financière? Après la pause, on revient là-dessus.
Une vision différente. Voici Judith Lucier et Sylvain Lévesque au réseau Cogeco. Cogeco.
Eh bien, le phénomène des Tanguis, ces grands garçons et grandes filles qui décident de demeurer à la maison malgré qu'ils sont majeurs. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez quitté le nid familial assez jeune? T'sais, à quel âge vous avez quitté le nid familial? À quel âge devrions-nous leur donner un bon coup de pied au derrière pour qu'ils quittent? Et vous, peut-être que c'est le contraire, peut-être que c'est les parents qui avaient le goût de combler votre manque d'affection pour garder vos jeunes à la maison.
Oui, c'est ça,
et vous voulez pas qu'ils partent?
Tu disais, il y a des Tanguis qui décident de rester, mais il y a des parents qui mettent beaucoup d'incitatifs pour que les enfants restent. Effectivement, des fois, ça fait un gros trou dans la maison quand les enfants partent.
Puis je dis ça en blague. Je pense qu'on peut le comprendre.
Mais oui.
Nos enfants, on les aime, on veut le meilleur pour eux. Est-ce que c'est de les aider, de les garder trop longtemps
à la
maison?
Moi, je me souviens, quand j'étais la dernière à partir de la maison, j'étais la plus jeune, mais je le sais que ça a fait un trou chez nous. Puis après c'est ça, tu sais, mes parents, ils ont déménagé. Ma mère et ma grand-mère qui habitent ensemble, ils ont déménagé dans un foyer pour personnes. Pas un foyer, mais
une résidence pour aînés.
Puis là, en tout cas, ça a fait un trou. On a Louise de la Montérégie. Je sais pas si elle est encore au bout du fil. Louise, est-ce que vous trouvez qu'on fait bien de garder les enfants longtemps à la maison?
Moi, je dis que ça dépend de chaque enfant.
Mm-hmm.
Moi, je suis partie à 22 ans. Ma fille, moi, elle a 33 ans présentement. Elle est partie, elle avait 18 ans. Puis, il faut encore que je l'aide monétairement.
Ah oui, hein?
Oui. Elle veut, elle est seule en logement, pas beaucoup d'instructions, mais elle veut Vidéotron, elle veut le cellulaire, elle veut tout.
Diriez-vous que si elle était partie plus tard, si elle avait pris plus son temps, elle dépendrait moins de vous?
Du tout.
OK. C'est une question de personnalité.
Oui, oui, ça dépend de son caractère. Elle a un fort caractère. Puis nous, on l'a payé ses cartes de crédit et tout. On lui a dit, essaye de faire un effort. Elle veut rien savoir.
En même temps, Louise, la question que je me pose à ce que vous venez de dire, est-ce qu'un enfant qui sait que maman ou papa est toujours là derrière avec le porte-monnaie, la carte de crédit, les sous pour l'aider, est-ce que c'est pas un incitatif, justement, à toujours se rabattre sur cette béquille, d'utiliser ses parents? Ah, de toute façon, je me mets dans le trouble, mais maman ou papa vont me donner des sous, puis il n'y en aura plus de problème.
Exactement.
Est-ce que vous sentez que vous êtes pris dans un cercle vicieux?
Oui, exactement. Oui. Puis moi, ça fait un mois là, j'ai décidé que c'était terminé là.
Ah, OK. Vous avez coupé les vivres.
Oui, oui. Puis ben là, descends au fond du tunnel, puis regarde, arrange-toi.
C'est difficile comme décision. Comme parent, ça me fait penser, puis c'est dans une moindre échelle, là, mais ça me fait penser dans les films où il y a des gens qui sont prises avec des gros problèmes de drogue, là, puis à un moment donné, le parent ouvre plus la porte, là, mais on sait qu'on n'est pas là, là, mais c'est à un moment donné, c'est qu'il faut prendre la décision de laisser les enfants devenir des adultes. Je vous félicite d'avoir décidé, là, de mettre fin à ça, Louise.
Bon, ben c'est parfait.
Merci d'avoir appelé.
Non, c'est vrai que c'est déchirant comme choix, mais à quelque part, devenir un adulte, tu l'as vécu, je l'ai vécu. Tous ceux et celles qui nous écoutent, probablement qui sont en haut de 18 ans, savent ce que c'est de devenir un adulte.
Ça fait partie de l'apprentissage à un moment donné de manger du spaghetti, puis de se dire, hey, je vais-tu avoir l'argent pour payer mon loyer, puis développer son sens des responsabilités. C'est des grosses responsabilités.
Je vais te faire tout à l'heure, je te disais que mes parents m'ont aidé le mieux qu'on put, puis financièrement, l'argent était rare. Mon père avait des sous, mais mon père ne donnait pas financièrement des sous. Il versait une pension à ma mère. Puis elle-même était monoparentale, rendue là, c'était difficile. J'étais allé à l'Université d'Ottawa. J'ai payé mes études à 97 je te dirais. Financièrement, là, dans la dernière année, là, j'ai dormi dans une entrée de laveuse-sécheuse. Tu sais, là, l'endroit où on met les deux électros, là. Bon, ma chambre, ça a été ça parce que deux de mes amis m'ont accueilli. Ils me chargeaient 150 $.
Une entrée de laveuse-sécheuse.
C'est assez cher pour une entrée de laveuse-sécheuse. Mais j'étais obligé de recroqueviller mes jambes. J'avais pas de place. Je mangeais par semaine, là, je m'achetais un pain. Un grand pain. Je m'achetais 24 tranches de fromage. Mes amis vont comprendre. Moi, je mange du fromage en tranches avec tout. J'adore ça. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Fait que j'ai dormi et mangé. C'était ça, ma vie. Mm-hmm. L'Université d'Ottawa était le double du Québec. C'était très dispendieux. J'avais pas accès à des bourses. Fait que tu comprends que devenir adulte, des fois, pour ça que je
fais... Ça fait mal, c'est pas facile.
Ça fait mal, c'est difficile, mais quand tu l'as vécu à la dure,
ben oui.
Parfois, ça te permet de devenir quelqu'un de plus solide. Puis je te dirais que même si j'ai souffert, même si c'était difficile, aujourd'hui, le gars que je suis a beaucoup à voir avec ce que j'ai vécu. Puis ma mère, là, elle s'est défoncée pour nous. Mm-hmm. Elle s'est défoncée pour nous aider du mieux qu'elle pouvait. Elle me donnait un petit 50 $ par semaine. C'était ça que je recevais, moi comme aide financière de mes parents.
C'est-tu ce que ma mère m'a dit récemment? Elle dit, j'ai parlé avec mon conseiller financier, puis elle dit, j'ai assez d'argent pour vivre une belle vie, une belle retraite, là. Puis même si je prenais le maximum de revenus auquel que je pourrais m'autoriser, là, je serais quand même à l'aise, puis j'aurais pas de problème à rejoindre les deux bouts, tu sais. Puis je dis, ben, tu pourrais nous en donner. Tu pourrais nous donner ton héritage avant le temps. Elle dit, non. Je ne vais pas faire ça. Puis je la comprends. Elle a tellement travaillé fort tout au long de sa vie. C'est son argent qu'elle en profite. Elle l'a pas eu facile tant que ça. Là. C'était elle aussi une mère monoparentale. Elle a soutenu. Elle avait trois filles à la maison.
En même temps, il faut respecter. Les parents, c'est leur argent. Puis ils n'ont pas à tout faire. Aider un enfant, là. Je pense que c'est important, mais il y a des limites à ça aussi. Mm-hmm. Et lui permettre de devenir un adulte, c'est de l'accompagner, de l'aider. Mais vois-tu, moi, ma position personnelle, là, c'est vraiment les études. Mm-hmm. Je trouve que quand on a la chance de permettre à notre enfant d'être chez nous pendant les études, et c'était pas possible pour moi. Moi, j'étais de la Côte-Nord. Malheureusement, il n'y a pas d'université sur la Côte-Nord. Je voulais poursuivre, je voulais continuer. Je n'avais pas le choix de m'exporter moi-même vers un autre contrée. Tu comprends? Mm-hmm. Mais quand c'est possible, puis qu'on peut donner la chance à son jeune, ça, c'est un plus. Mais après les études, là, dehors.
On a Normand de Québec qui est au bout du fil. Normand, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait continuer à soutenir les enfants à l'âge adulte?
Bon, je vais aller dans le même sens que ce que j'ai entendu. Un jeune qui veut étudier, puis que... Mais on lui donne la chance de rester à la maison s'il veut étudier longtemps, s'il veut faire... Parce qu'on lui donne la chance de sortir le plus armé possible pour gagner sa vie avec le meilleur outillage possible. Oui, mais comme j'ai entendu, des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens gaspillent puis payent les factures.
Ça, là, c'est une autre affaire.
C'est une autre histoire. Bon, mais... Mais c'est normal de penser... Moi, je suis un bébé boomer, en plein centre, dans le cœur des bébés boomers, OK? Mm-hmm. Alors, c'est normal d'avoir le réflexe qu'on dise, bon, ben, je vais y donner le maximum de ce que j'ai pas eu. Comprenez? Mm-hmm. C'est bien humain de penser de même, là. Mm-hmm. À moins d'être l'égoïsme parfait, là. Alors, on a tout un peu ce réflexe-là. Maintenant, ce qui m'a interpellé, dans le fond, c'est c'est ce que j'entends des bébés boomers. Puis aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de détruire un mythe.
Allez-y. Rapidement, Normand.
À l'effet qu'ils ont tout eu.
C'est la caricature.
Il y en a un sur trois qui faisait partie d'une certaine élite qui a été gâté pour jusqu'à la fin de ses jours. Les deux autres tiers, dont moi, on sortait des familles de 12 puis de 15 enfants.
C'est vrai.
On n'allait pas longtemps à l'école, il fallait partir pour aller gagner notre vie au plus sacré. On partait avec une claque et une bottine. Si on s'est organisé puis on s'est syndiqué pour améliorer notre sort à coup de lutte de classe, c'est parce qu'on avait pris conscience qu'un individu seul, ça va pas loin contre un empire. Comprenez-vous, quand on travaille pour un empire financier. Alors, arrêtez. La vraie génération, ça me fait rire, moi, quand j'entends une génération qui me suit dire on est la génération sacrifiée. Il y en a une partie que oui.
C'est vrai. On réglera pas le conflit des générations aujourd'hui, Normand, mais merci d'avoir appelé de rectifier le tir. C'est vrai que c'est un peu rendu une caricature de dire que les baby boomers l'ont eu facile. On va prendre rapidement un dernier appel. Éric, rapidement, votre point de vue.
Oui, bonjour. Moi, mon point de vue, c'est assez général. Je te dirais que, tu sais, on généralise beaucoup sur le fait que les adolescents ne travaillent pas, pis ça, mais souvent, on focalise plus sur certains individus, tandis qu'on ne voit pas nécessairement que, je te dirais, que 80% des adolescents ou des jeunes personnes travaillent fort. C'est dur à expliquer un peu, mais ça, on n'en parle pas souvent.
C'est vrai que des fois, quand on sort des études comme ça, on a tendance à généraliser. Merci beaucoup d'avoir appelé, Éric. C'est un sujet passionnant. Puis d'ailleurs, ça aurait quasiment pu se recouper avec le sujet de la pénurie de main-d'œuvre dans les restaurants. Parce que on sait que dans les restaurants rapides, c'est beaucoup des 18-25 ans qui travaillent là. Et là, en ce moment, les restaurants manquent de main-d'œuvre. Est-ce que c'est parce que les jeunes adultes sont chez leurs parents, ils n'ont pas besoin de travailler? Je sais pas, on aurait pu en parler. Ça sera un sujet pour une prochaine fois.
Absolument.
Mais après la pause, on va aborder un sujet qui nous touche personnellement, Sylvain et moi, parce qu'on apprenait cette semaine que 91% c'est énorme, là, 91% des proches aidants seraient d'accord pour qu'on étende l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes, les personnes atteintes d'Alzheimer. Sylvain et moi, on en a dans notre famille. C'est un sujet qui nous interpelle énormément. Puis on veut tâter votre pouls. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On en parle après la pause.